Deuxième partie. L'affaire Alice Dixon. Chapitre 12. Alice. C'est arrivé au cours de cet été vert et fou. Frankie avait 12 ans. Elle ne faisait partie d'aucun club, ni de quoi que ce soit au monde. Elle était devenue un être sans attache, qui traînait autour des portes, et elle avait peur. Carson McCullers. Trois ans plus tôt, 8 décembre 2008, commissariat de Cheatham, nord-est de Manchester. Madeleine haussa la voix. « Il va falloir m'expliquer la chose plus clairement, parce que je ne comprends toujours pas. Pourquoi avez-vous attendu 8 jours pour signaler la disparition de votre fille ?» Assise devant elle, le teint pâle et les cheveux collés, Erin Dixon se contorsionnait sur sa chaise. Mal à l'aise, tremblante, elle clignait des paupières et triturait le gobelet en plastique de son café. « Vous savez comment sont les ados, bordel ? Ils vont, ils viennent. Et puis je vous l'ai déjà dit, Alice a toujours été indépendante, elle se débrouille toute seule. Mais elle n'a que 14 ans !» la coupa froidement Madeleine. Erin secoua la tête et réclama la permission de sortir pour fumer une cigarette. « Pas question !» trancha la flic. Elle plissa les yeux et marqua une pause. La femme qu'elle interrogeait avait 30 ans, le même âge qu'elle. Mais il lui manquait plusieurs dents et son visage, crûment éclairé par la lumière froide du plafonnier, était ravagé par la fatigue et les hématomes. Depuis 1 heure qu'elle se trouvait dans les locaux du commissariat, Erin était passée par tous les stades. Les larmes d'abord, en signalant la disparition de sa fille, puis l'agressivité et la colère au fur et à mesure que l'interrogatoire se prolongeait et qu'elle se révélait incapable d'aligner 2 phrases cohérentes pour expliquer pourquoi elle avait mis 1 semaine à donner l'alerte. « Et son père, il en pense quoi ?» Erin haussa les épaules. « Ça fait bien longtemps qu'il a disparu. À vrai dire, je ne suis même pas certaine de son identité. À l'époque, je couchais à droite, à gauche, sans prendre de précautions. » Brusquement, Madeleine s'exaspéra. Elle avait travaillé 5 ans au stup et elle connaissait ce comportement par cœur. Cette fébrilité, ce regard fuyant, étaient les signes criants d'un manque de drogue. Les traces autour des lèvres d'Erin étaient les brûlures laissées par une pipe en pyrex. Madame Dixon était accro au crack, point barre. « Bon, on y va, Jim », décida Madeleine en attrapant son blouson et son arme de service. Pendant qu'elle faisait un détour dans le bureau de son supérieur, son coéquipier escorta Erin jusqu'au parking et lui alluma une cigarette. Il était déjà 10 heures du matin, mais le ciel chargé de nuages noirs donnait l'impression que le jour ne s'était pas vraiment levé. « On a reçu la réponse du système central des urgences », annonça Jim en raccrochant son portable. « Les hôpitaux n'ont enregistré aucun dossier sous le nom d'Alice Dixon. »« J'aurais parié », répondit Madeleine en passant une vitesse. La Ford Focus fit une brusque embardée sur la route mouillée. Gyrophare allumé et sirène hurlante, la voiture fonçait vers les quartiers nord. La main gauche sur le volant, la droite crispée autour d'une radio, l'enquêtrice coordonnait les premières mesures. Diffusion de la photo d'Alice à tous les commissariats du pays. Communication de sa disparition à la presse et aux rédactions des journaux télévisés. Demande urgente pour mobiliser une équipe de la police scientifique. « Vas-y doucement, tu vas nous foutre en l'air !» se plaignit Jim alors que Madeleine mordait dangereusement le bord d'un trottoir. « Tu trouves qu'on n'a pas assez perdu de temps ?»« Justement, on n'est plus à 10 minutes près. T'es vraiment trop con !» Les deux flics arrivèrent au carrefour d'un quartier populaire. Avec ses rangées de maisons de briques rouges qui s'étendaient à perte de vue, Cheatham Bridge était l'archétype de l'ancien faubourg industriel sinistré. Ces dernières années, les travaillistes avaient injecté beaucoup d'argent pour rénover les quartiers du Nord-Est, mais Cheatham Bridge n'avait pas beaucoup profité de cette embellie. De nombreux logements étaient désaffectés, la plupart des jardins laissés à l'abandon, et la crise qui étouffait l'économie anglaise n'allait pas arranger les choses. Si le secteur n'était pas en bonne place dans les guides touristiques, que dire alors de Farm Hill Road, le pâté de maison où vivait la mère d'Alice? C'était une véritable enclave de misère, rongée par la criminalité. Madeleine et Jim suivirent Erin Dixon dans une enfilade de bicoques délabrées livrées aux squatteurs, aux putes et aux vendeurs de crack. En entrant dans la baraque, Madeleine eut un haut-le-cœur. Le salon était glauque et repoussant. Matelas à même le sol, fenêtres obstruées par des cartons et des bouts de contreplaqué, odeur de nourriture avariée. À l'évidence, Erin avait emménagé son appartement en Shootodrome pour extorquer un peu d'argent aux junkies qui utilisaient les lieux. Même si elle avait dû se douter que la police mettrait le nez dans sa maison, elle ne s'était pas donné la peine de maquiller ses activités. Une pipe artisanale, fabriquée avec une canette, traînait encore sur le rebord de la fenêtre, à côté de bouteilles de bière vide et d'un cendrier où traînait un pétard aux trois quarts consommé. Madeline et Jim échangèrent un regard inquiet. Vu le nombre de tarés qui devaient fréquenter l'endroit, l'enquête n'allait pas être simple. Ils montèrent à l'étage, poussèrent la porte de la chambre d'Alice et... L'endroit détonnait avec le reste de la maison. La pièce était sobre et bien rangée, avec un bureau, des étagères et des livres. Grâce à un diffuseur de parfum, une odeur agréable d'iris et de vanille flottait dans l'air. Un autre monde. Madeline leva les yeux et regarda attentivement les murs de la chambrette décorés avec les tickets et les programmes des spectacles auxquels Alice avait assisté. Des opéras, Carmen et Don Giovanni au Lowry Theatre, une pièce, la ménagerie de verre au Playhouse, un ballet, Roméo et Juliette, dans les locaux du BBC Philharmonic Orchestra. « C'est une extraterrestre, cette fille, ou quoi ?» demanda Jim. « Ouais, » grommela Erin. « Elle a toujours été comme ça, toujours fourrée dans ses livres, sa peinture et sa musique. Je me demande bien de qui elle tient ça. » « Pas de toi, en tout cas, » pensa Madeline. La flic était hypnotisée par ce qu'elle découvrait. De part et d'autre du bureau, deux reproductions de tableaux se faisaient face. Un autoportrait de Picasso datant de la période bleue et le fameux verrou de Jean-Honoré Fragonard. Jim regardait les titres des livres sur les étagères. Des romans classiques, des pièces de théâtre. « Tu connais beaucoup d'adolescentes de Chitam Bridge qui lisent Les Frères Karamazov et Les Liaisons Dangereuses ?» demanda-t-il en feuilletant les deux bouquins. « J'en connaissais au moins une, » répondit Madeline, l'air absente.
« Qui ?»«
Moi. » Elle chassa le souvenir de son esprit. Les blessures de son enfance étaient encore vives et ce n'était pas vraiment le jour pour s'apitoyer sur son sort. Elle enfila une paire de gants à latex, puis ouvrit tous les tiroirs et fouilla la pièce de fond en comble. Dans les placards, Madeline trouva une dizaine de paquets de biscuits au cacao fourrés à la vanille, des Oreos, ainsi que des petites bouteilles en plastique Nesquik de lait à la fraise. « Elle ne se nourrit presque que de biscuits qu'elle trempe dans du lait », expliqua sa mère. Alice était partie sans rien emporter. Son violon était posé sur son lit. Son ordinateur, un vieux Mac coquillage obsolète, trônait sur son bureau. Quant à son journal intime, il gisait au pied de son lit. Madeline l'ouvrit avec curiosité et découvrit dans son rabat un billet de 50 livres sterling plié en quatre. Une lueur malsaine brilla dans le regard d'Erin. Visiblement, elle se reprochait de ne pas avoir eu la présence d'esprit de fouiller la chambre avant les flics. « Mauvais présage, » se dit Madeline. Si la gamine avait fugué, elle n'aurait pas laissé une somme pareille derrière elle. L'équipe qu'elle avait réclamée venait d'arriver. Elle demanda à la police scientifique de passer la maison au peigne fin. Avec leurs pinces, leurs scalpels et leurs tampons noirs, les techniciens prélevèrent quantité d'échantillons qu'ils plaçaient au fur et à mesure dans des tubes hermétiques. Alors que ces hommes embarquaient les principales pièces à conviction, Madeline ouvrit un classeur dans lequel l'adolescente gardait certains de ses devoirs scolaires. Ses notes étaient excellentes et les appréciations de ses profs élogieuses. Alice s'était construit une citadelle de culture pour échapper à son quotidien sordide. L'éducation et la connaissance comme bouclier pour se protéger de la violence, de la peur et de la médiocrité. Cinq voitures de police stationnaient à présent dans Farm Hill Road. Madeline échangea quelques mots avec le responsable de l'unité scientifique qui lui assura avoir retrouvé suffisamment de cheveux sur la brosse d'Alice pour avoir des prélèvements ADN de bonne qualité. Puis, la flic s'appuya contre le capot de la voiture et alluma une cigarette en regardant fixement la photo d'Alice. C'était une jolie fille, grande et mince, qui faisait plus que son âge. Son visage diaphane souligné par de discrètes taches de rousseur trahissait des origines irlandaises. Elle avait des yeux en amande, vert de gris, qui rappelaient les portraits de Modigliani et dans lesquels on pouvait déjà lire une grande lassitude, ainsi qu'une volonté manifeste de cacher sa beauté, consciente que, dans l'environnement où elle évoluait, celle-ci lui apporterait plus d'emmerdes que de gratification. Qu'espérer de l'avenir quand les conditions de départ dans la vie sont si difficiles? Comment pouvait-on grandir dans ces bas-fonds sans devenir soi-même un peu dingue, au milieu des drogués et des décérébrés? Peut-être as-tu fugué finalement? Demanda mentalement Madeleine à Alice. Peut-être as-tu quitté ce quartier pourri où on ne croise que des épaves? Peut-être as-tu voulu fuir cette mère débile qui n'est même pas capable de te dire qui est ton père? Mais Madeleine ne croyait pas à ce scénario. Alice semblait être une fille intelligente et organisée. Se tirer de la cité, d'accord. Mais pour aller où? Avec qui? Et y faire quoi? Elle se servit de son mégot pour s'allumer une nouvelle clope. La chambre d'Alice avait ravivé les souvenirs de sa propre histoire. Comme 99% des gosses élevés dans le quartier, Madeleine avait eu une enfance chaotique entre une mère dépressive et un père porté sur la bouteille. Adolescente, elle s'était jurée de fuir ce désastre humain, d'aller tenter sa chance ailleurs. Son grand rêve était de vivre un jour à Paris. Elle était bonne élève, et elle avait réussi ses examens de droit, puis la réalité du quartier l'avait rattrapée, et elle était entrée dans la police, gravissant rapidement les échelons, mais restant scotchée dans la grisaille et la tristesse de Cheatham Bridge. Elle ne se plaignait pas de son sort, au contraire. Son travail lui plaisait parce qu'il avait un sens. Mettre hors d'état de nuire des criminels. Permettre à des familles de faire leur deuil en retrouvant les assassins de leurs proches. Sauver des vies, parfois. Bien sûr, ce n'était pas facile tous les jours. Ici, comme partout ailleurs, un malaise profond régnait chez les flics. Non seulement ils ne se sentaient plus respectés, mais leur statut leur attirait des insultes et des menaces. C'était une réalité générale, mais on la ressentait encore plus dans un quartier comme Cheatham Bridge. Les collègues affectés ici cachaient leur métier à leurs voisins et demandaient à leurs gosses de faire de même à l'école. Les gens aimaient bien les flics dans les séries télé, mais crachaient sur ceux qui travaillaient dans leur quartier. Il fallait donc gérer un stress quotidien, endurer l'hostilité de la population, le désintérêt de sa hiérarchie. Accepter de voir sa voiture caillassée et s'arranger d'un matériel d'un autre âge. De nombreuses bagnoles n'avaient même pas de radio. Certains ordinateurs tournaient encore sous Pentium 2. Par moments, c'était dur. Vous vous mettiez à ressentir intérieurement, personnellement, l'absurdité des accidents mortels, la souffrance des femmes battues, l'horreur des enfants abusés, la douleur des familles des victimes. À force de broyer du noir et de vivre sous tension, certains finissaient par craquer. L'année dernière, un flic de son unité avait pété un câble et est descendu sans raison apparente, un petit caïd au moment de l'interpellation. Il y a 6 mois, une jeune stagiaire s'était suicidée dans le commissariat avec son arme de service. À l'inverse de beaucoup de ses collègues, Madeleine n'était ni désenchantée ni dépressive. Elle était volontairement restée dans ce quartier difficile pour grimper plus vite les échelons. Pas plus les vieux briscards que les jeunes recrues ne s'éternisaient ici. Ça ouvrait des perspectives de carrière. Avec les années, elle avait donc gagné une position particulière ainsi qu'une certaine autonomie qui lui permettait d'enquêter sur les cas les plus intéressants, qui étaient aussi les plus sombres et les plus sanglants. « Elle ne s'est pas tirée volontairement, n'est-ce pas ?» demanda Jim en la rejoignant. « Non. Si c'était une fugue, on l'aurait déjà localisée. Et elle n'aurait pas fait une croix sur ses 50 livres. Avec ce qu'Erin doit avoir sur son compte en banque, je crois qu'on peut aussi éliminer la piste de la rançon. » C'est sûr, approuva-t-elle, mais on va quand même enquêter sur la bande de camés qui l'entoure. Avec ces types-là, il peut s'agir d'une vengeance ou d'un racket. On va la retrouver, affirma Jim, comme pour s'en persuader lui-même. On n'était pas aux États-Unis, ni dans un polar. Dans l'Angleterre d'aujourd'hui, les affaires de disparition de mineurs non résolus étaient rares. 2 ans plus tôt, Madeleine et Jim avaient supervisé l'enquête sur la disparition d'un gamin enlevé alors qu'il jouait dans le jardin de ses parents. L'alerte avait été immédiate. On avait pu déployer des moyens de recherche considérables dans un temps très court. Le ravisseur avait été arrêté quelques heures plus tard grâce au signalement de sa voiture, puis était passé aux aveux. Avant la nuit, on avait découvert le garçonnet, ligoté dans une cabane, mais vivant et en bonne santé. En se remémorant cet épisode qui montrait l'importance de la réactivité, Madeleine laissa exploser sa colère. « Putain, quelle conne !» ragea-t-elle en donnant un coup de poing sur le capot de la Focus. « Attendre 8 jours pour signaler la disparition de sa fille. Je vais la mettre en tôle, moi !» Dans n'importe quelle disparition, les 48 premières heures étaient déterminantes. Si passé cette limite, on n'avait pas retrouvé la personne, il y avait de fortes chances pour qu'on ne la retrouve jamais. « Calme-toi !» demanda Jim en s'éloignant. « J'ai récupéré le numéro de portable de la gamine. On va voir si on peut tracer ses appels. » À nouveau, Madeleine regarda la photo et sa gorge se serra. Elle voyait en Alice une petite sœur, une fille même. Comme Erin, elle aurait pu se faire engrosser par un connard du quartier à 17 ans, en rentrant de boîte un samedi soir sur la banquette arrière d'une Rover 200. « Où es-tu ?» lui murmura-t-elle. Chose qui lui arrivait rarement, elle se sentit habitée par une certitude inébranlable. Alice était vivante. Mais même dans ce cas, Madeleine ne se faisait aucune illusion. L'adolescente n'était pas dans un endroit confortable. Plutôt dans la cave sombre et humide d'un tordu, ou entre les griffes d'une mafia spécialisée dans la traite des jeunes femmes et le proxénétisme. En tout cas, une chose était certaine. Elle devait avoir peur. Horriblement peur.